Nous sommes le 15 octobre, en compagnie de Mauvais Sang. On va faire un petit tour de table, puisque vous êtes quatre autour de moi, et ça n'est pas le groupe incorporé. Vous allez doucement vous présenter, et puis on verra qui n'est pas là. Et on lui fera du coup une petite dédicace, comme il s'y est. Alors on va commencer avec toi, Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Alors que fais-tu, toi, au sein du groupe Mauvais Sang?
Alors je joue du clavier, donc voilà, tout ce qui est synthé, clavier électronique. Mais bon, je m'occupe aussi de tout ce qui est son électronique et tout ça, aussi un peu du mixage, voilà.
D'accord. Mathis, bonjour à toi.
Bonjour.
Quel est ton rôle au sein du groupe?
Alors, je suis compositeur et guitariste de Mauvais Sang.
Compositeur et guitariste. Ouais. Ferais-tu passer la bouilloire derrière aux gens qui interrompent les interviews?
Passeur de bouilloire.
Exactement. Alors, très bien. Merci Mathis. Val, et toi, qu'en fais-tu au sein du groupe?
Alors moi, je suis le bassiste de Mauvais Sang, et en fait, je suis là depuis le groupe qu'on avait avant avec Mathis et Léo. Donc, ouais, moi, je suis pas très éclectique, donc je m'occupe uniquement de la basse.
Très bien. Et enfin, Léo?
Moi, je suis le chanteur de Mauvais Sang, et à temps partiel, évidemment, je m'occupe aussi un peu de la logistique et des concerts et des interviews.
D'accord, voilà. Très bien. Ouais, bah, c'est parfait que tu sois là. Qui est le personnage manquant de la journée?
Alors, il y en a quelques-uns qui manquent. Ouais.
Ah. Alors, fixe, il y a Antoine, le batteur, qui n'a pas pu venir. Qui n'a pas pu venir parce qu'il est en prépa, enfin, il a beaucoup de cours. Mm-hmm. Et sinon, après, il y a
Sarah, l'harpiste.
L'harpiste qui n'a pas pu venir. Et puis, également, la chanteuse, Ella, qui était venue chanter sur un des morceaux. Mm-hmm.
Qui était avec nous l'année dernière avec Mauvais Sang. Maintenant qui est au stream en scan, il me semble, donc c'est mm-hmm. beaucoup plus compliqué pour elle, évidemment.
D'accord, ok. C'est vrai que vous êtes une sacrée équipe quand même.
Ouais.
Alors, ça, oui, pardon.
C'est ça, en fait, on n'est pas exactement vraiment parler un groupe de musique, on est plus un espèce de collectif, en fait, qui rassemble du coup des musiciens d'un peu partout. Et on travaille aussi avec des réalisateurs donc, qui font de la vidéo, donc qui ne sont pas là non plus aujourd'hui, mais voilà, on est au final une plus grosse équipe qu'un groupe de musique, en fait.
D'accord. Et les gens interviennent ou n'interviennent pas selon le type de projet, selon le type de chanson.
C'est exactement ça, voilà. D'accord. C'est constamment au mouvement.
On va de toute façon tranquillement revenir là-dessus. Alors, Mauvais Sang, c'est donc ce collectif-là. S'il fallait, bien entendu, c'est pas l'idée de poser une étiquette dessus, mais évidemment qu'il faut quand même dire quelques mots pour pouvoir se faire une idée de qui vous êtes. Alors, voilà, quels sont si vous revendiquez un héritage musical ou un modèle musical, lesquels seraient-ils? Je ne sais pas qui veut répondre à ça.
Je pense qu'il y en a, il y en a plusieurs en fait. Il y a beaucoup d'influences qui viennent du rock un peu alternatif, expérimental. Donc on a des groupes comme Radiohead ou Archives par exemple, qui travaillent beaucoup avec de l'électronique. Et après voilà, il y a tout le côté musique entre guillemets savante, donc de la musique contemporaine d'aujourd'hui ou même de tout le XXe siècle. Donc voilà, ça, il y a des grands noms comme Ligeti ou même John Cage, voilà. Mm-hmm. Donc du monde de la musique expérimentale.
Ouais, j'ai bien compris. Quelqu'un veut compléter ou
vous êtes... Moi, je veux bien compléter au niveau des paroles, des textes. Et avec notre ancien groupe, on était très inspirés. Puis je pense qu'on l'a encore par Noir Désir, par des groupes comme Eiffel, par la chanson française aussi, avec des chanteurs comme Jacques Brel, Léo Ferré. Mm-hmm. Et on va piocher beaucoup dans... En termes de paroles, dans ces paroles-là, dans les poèmes aussi. On est vraiment branché dans la littérature. On est toujours très curieux sur le surréalisme, sur. On nous arrive même de faire des cadavres esquis pour écrire nos paroles. Mm-hmm. Donc voilà, on est toujours dans la recherche, dans l'innovation, que ce soit au niveau des textes et de la musique.
Mm-hmm. Alors, de toute façon, évidemment, on viendra sur les compositions, les textes et les mélodies, bien entendu. Mais avant ça, je voulais encore, pour fixer un petit peu quelques jalons, depuis quand est-ce qu'existe Mauvais Sang?
Alors,
C'est Mathis,
voilà. Alors, Mauvais Sang, au départ, tout s'est formé à partir d'un groupe de rock, au départ, donc dont on faisait partie Léo, Val et moi. Qui a ensuite évolué le jour où, en rencontrant Mathieu justement, qui devait composer un morceau, il a composé son morceau pour harpe et guitare électrique, et ce mélange en fait a été le déclenchement au final de Mauvais Sang. C'était le côté de pouvoir faire découvrir au final un public rock la musique expérimentale, donc avec des instruments comme la harpe, tout ça, et à la musique expérimentale, le rock en fait.
D'accord, et ça c'est depuis quand?
Alors ça va faire un an.
Ça va faire un an.
C'est assez récent quand même.
C'est assez récent. Ouais.
Est-ce que, comment, de quelle manière vous êtes rencontrés? Parce que c'est quand même un grand groupe. Vous êtes quoi, au moins 6, 7, 8 ouais, ouais. De quelle manière vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous arrivez à gérer des répètes régulières en étant aussi nombreux que ça?
Alors, personnellement, moi j'ai rencontré donc, Mathis et Léo dans l'ancien groupe de rock donc, qui s'appelait Ares Project. Ils avaient fait des annonces, parce qu'on marche beaucoup par faire des annonces un peu partout, sur tous les réseaux sociaux, on en profite en ce moment. Ils avaient fait une annonce à mon école de musique, et mon prof de basse m'en a parlé. Donc j'ai rejoint le groupe Ares, et après j'étais comme, effectivement on s'entendait très bien les deux, on avait beaucoup de styles de musique en commun. On a resté ensemble pour former Mauvais Sang. Antoine, le batteur, lui, on a fait un recrutement. On a passé une annonce, il était intéressé. Donc, on a fait une audition et il est resté. Et après, les autres musiciens, comme Mathis et Mathieu, ils sont au conservatoire. Ils ont pu débaucher une harpiste. Par exemple, on a Colline qui travaille sur les clips, principalement sur les clips. Mathis l'a rencontré pendant un festival de projection, ça, projection indépendant. Donc on joue beaucoup sur les relations qu'on a, et puis également on profite des moyens qu'on a eu, donc Facebook pour faire des annonces, etc.
Vous avez déjà cité à plusieurs reprises le mot harpe ou harpiste. Ça veut dire que c'est une des centralités qui siège au sein du groupe. C'est important pour vous qu'il y ait cet instrument-là?
C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a qu'un seul morceau, il y a une harpiste, encore, mais c'est-à-dire qu'on ne se limite pas. C'est-à-dire que si on a besoin d'une harpe, contrairement à d'autres groupes où peut-être ils iraient, ça ferait trop bizarre. Nous, comme on a un style assez libre, on se dit, tiens, ça serait bien d'essayer avec une harpe. On cherche une harpiste, on la trouve pas, là on en a trouvé une, donc on cherche un peu partout, on se limite pas en fait.
D'accord.
Si je peux juste rajouter quelque chose, on a justement la chance d'avoir un peu un lien avec des gens qui viennent du conservatoire. Donc voilà, il y a cette harpiste là, donc en tout cas pour le futur on pense faire des projets avec. C'est vraiment chouette, c'est aussi pour l'identité du groupe, c'est quelque chose que là, il n'y a pas beaucoup de harpistes dans un groupe de rock habituellement, donc c'est quelque chose d'assez original que, en tout cas, avec les autres, on veut développer.
Bien sûr. Question obligatoire, une mauvaise sang, qui a trouvé le nom et pourquoi ce nom-là?
Vas-y, Mathis.
Et, alors, ce titre de groupe, ce nom de groupe, il est venu à la suite d'un film que j'ai découvert, en fait, que mon père m'a fait découvrir, qui donc un film de Léo Scarrax, du même titre, voilà, Mauvais Sang. Et ce film, en fait, pareil, était le parfait mélange entre un film art et essai, un peu expérimental, avec des scènes osées, des plans longs, assumés, et une très belle histoire avec de l'action, avec des chansons, justement, pareil, de la musique dans le film. On a une chanson très expérimentale avec les cordes, et une très fameuse scène avec Modern Love de David Bowie, donc très très rock'n'roll quoi. Et ça a été un espèce de déclenchement. Au final, on rendait hommage à ce film, donc on rendait hommage à ce mélange en fait, en créant le groupe en fait.
Ok, cinéma et musique, pour vous là, il y a des liens, il y a une esthétique commune qui surgit ou que vous avez envie de faire surgir.
Ouais, parce qu'en fait, à l'avenir, on aimerait beaucoup plus allier la vidéo et la musique. On l'avait déjà fait avec notre ancien groupe, avec Ares, où voilà, Mathis se chargeait de faire des vidéos qui accompagnaient derrière nous, un écran qui nous accompagnait derrière, qui correspondait à la musique, où voilà, ça rajoutait un univers en plus. Et c'est vrai qu'à l'avenir, on aimerait encore plus jouer sur ça et perpétuer un peu cette tradition voilà, qu'il y avait avec l'ancien groupe, avec Mauvais Sang, où la vidéo aura évidemment sa place. Ouais.
D'accord, ça veut dire que vous êtes tous... Toutes et tous cinéphiles?
Plus ou moins, obligatoirement. Ouais, on est curieux. Je pense Mathis les plus d'entre nous, il nous fait toujours découvrir plein de choses. Donc finalement, on le devient, même si on l'est pas forcément, on devient forcément en allant voir plein d'autres films qui nous fait découvrir.
Quand on s'appelle Mauvais Sang, est-ce qu'au bout du compte, ça influe sur nos attitudes? Est-ce qu'on devient un petit peu de mauvais poil? tout ça.
Alors non, il suffit juste de traîner en répète pour savoir que déjà je suis un peu le bouffon parce que c'est toujours moi qui aime bien plaisanter. Mais non, on est... Même si on arrive à rester très sérieux, on n'a aucun problème avec un peu plaisanter sur le côté, on n'est pas... Non, on n'est pas de mauvais poil, ça n'avance pas tellement.
Alors maintenant, concernant le répertoire, alors évidemment, si j'ai bien compris, contient, ce que vous contenez, c'est effectivement des textes, de la poésie, de la littérature, également des mélodies. Vous allez nous en parler un petit peu plus précisément. Dans quel ordre est-ce que cela se met en place lorsque vous composez? Et puis, du coup, le cinéma également est une source d'inspiration pour vous. Donc, il y a vraiment cette espèce de triangle qui se produit. Donc, alors voilà, comment ça se passe quand vous composez? Est-ce que c'est lors d'une répète où une mélodie émerge, un texte ira dessus plus tard? Comment la composition se met en route? Est-ce que quelqu'un vient? Est-ce que le groupe fait quelque chose?
Alors, on a, en fait, c'est des idées en fait, que chacun rassemble un petit peu. On compose rarement tout seul dans notre coin, en fait. On le fait rarement en répétition, voilà. Mais voilà, on aime beaucoup aussi échanger, c'est important. On fait pas si souvent que ça de la musique constamment. On aime aussi beaucoup prendre un café, se voir, voilà, juste pour se promener et discuter. Et voilà, on échange énormément. Justement, en parlant de la vidéo, on regarde énormément de films ensemble, en fait. Et donc, ces idées, voilà, viennent un petit peu de chacun.
Mm-hmm. Voilà. Okay. Ouais, il y a aussi des fois, excusez-moi, quelques fois en répétition. Alors, par exemple, des fois, on attend un autre membre du groupe, des fois, on fait des petites jams. Et du coup, des fois, on trouve des sons assez intéressants. Et ça vient un peu de tout. C'est vrai qu'il y a des sessions de composition où vraiment on se dit faut qu'on écrive un morceau, et puis des fois c'est juste on trouve quelque chose. Parfois en faisant des reprises ou en dérivant des morceaux juste pour s'amuser, des fois on trouve des sonorités qu'on trouve intéressantes.
Ok. Pour en revenir deux secondes au cinéma, si vous regardez un film ensemble, genre, je sais pas, un film un petit peu angoissant comme ça, est-ce qu'il vous arrive de dire tiens, la bande-son nous a intéressés, on a envie de prendre quelque chose là-dedans, de picorer un petit peu? Ou est-ce que c'est l'atmosphère générale du film? Mais est-ce que ça peut être justement là aussi une source d'inspiration?
Carrément. Ouais, justement, on parlait de films angoissants, ouais, c'est vrai qu'on ça arrive souvent d'en regarder. Et justement, ensuite de piocher, de se dire ah oui, quand même, là, il y a une mélodie qui est folle. Et peut-être qu'on devrait s'en inspirer, parce que mauvais sens, il y a quand même ce côté angoissant qu'il faut. Qui va sûrement se fondre en fait dans le groupe et dans la musique en fait dans l'univers. Pourquoi on regarde beaucoup ça?
On l'a pas dit encore, mais moi qui vous vois devant moi, donc ça s'aperçoit, vous avez plus ou moins 20 ans tout le monde, vous êtes plutôt très jeune. Est-ce que la vie est déjà foutue pour vous?
Alors
je sais pas, je vous pose la question.
On aime faire de la musique angoissante, on aime saturer en fait, mais on a un désir de vivre en fait, on adore, je dirais qu'en fait on est des musiciens qui aiment le bruit, qui adorent le bruit, c'est-à-dire qu'on aime le larcène, on aime le parce que on aime en fait bousiller, on aime salir la musique, donc au final c'est plus dans un esprit de colère, de se défouler que quelque chose de triste en fait.
D'accord. Façonneur, sculpteur de bruit, on pourrait dire, un truc comme ça. Est-ce que le bruit doit être sous contrôle, ou est-ce qu'il doit justement surgir de manière un petit peu sauvage comme ça, et il doit justement sortir de votre zone de confort et de votre domaine de contrôle?
Ça dépend.
Ouais, je pense qu'il y a les deux aspects. On essaye de laisser, en tout cas, une assez grande place à l'improvisation. On a déjà fait quelques morceaux avec... en improvisant avec un schéma, un plan déjà prévu à l'avance, mais avec de l'improvisation. Mais voilà, quand je vois Mathis travaille beaucoup sur les versions studio, et il a vraiment, quand il a une idée en tête sur son son, il va la travailler longtemps. Et il va chercher le son exactement qu'il veut. Donc on a un côté très précis finalement à la fin quand même.
Ok, donc il faut peut-être être extrêmement structuré pour pouvoir ensuite donner cette idée de liberté.
Exactement.
On connaît un petit peu ça également à la radio. Y a-t-il, concernant les textes, y a-t-il des thèmes un petit peu récurrents, des thèmes qui vous touchent particulièrement de votre point de vue? Puisqu'effectivement, quand on a 20 ans et puis qu'on vit actuellement, on est peut-être aussi façonné un petit peu par ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure est peut-être moins sympa que 10 ans, 20 ans en arrière, ou plus sympa, je ne sais pas. Mais voilà, selon vous, y a-t-il des thèmes qui vous habitent plus que d'autres?
Ça c'est intéressant comme question, parce qu'en fait, par exemple, avec Mathis, on travaille beaucoup à deux, justement, sur les textes. Et j'ai l'impression, justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on essaie toujours de créer quelque part, de jamais faire la même chose, de jamais faire un texte où il y a la même idée, je ne sais pas, de tristesse ou de mélancolie. On essaie toujours d'aller chercher un nouveau thème. On fonctionne surtout par, euh, par exemple des petites métaphores ou pour parler d'un thème commun, pour parler de l'évolution des gens qui changent, qui vont devenir d'autres personnes. On va prendre l'exemple d'un papillon comme ou des idées comme ça. C'est il y a beaucoup de textes, on fonctionne comme ça. On se dit on va prendre au lieu de tout décrire simplement. C'est facile, si on veut parler d'amour, on va pas utiliser le champ lexical de l'amour, c'est trop facile. On va essayer de réinventer la manière de dire, la manière de parler d'amour. On va réinventer l'amour par d'autres manières, par d'autres chemins, en parlant de quelque chose qui est radicalement opposé.
Et au niveau des thèmes, en fait, au final, c'est pour ça que je dis qu'on dit qu'on échange beaucoup, en fait, c'est qu'au final, on raconte nos histoires personnelles, en fait. Au final, les paroles se font au final en. On se raconte nos problèmes peut-être. Ouais. Ou on se raconte les moments qu'on aime bien, comme des adolescents quoi.
À qui vous vous adressez? Est-ce qu'il y a une population cible, en guillemets, à qui vous vous adressez? Ou bien non, vous parlez au monde, voire à l'univers?
Alors à l'univers.
Je pense qu'on parle. Non, il n'y a pas vraiment de public cible.
Non, parce que je pense que ça peut pas. En même temps, c'est très personnel comme histoire, mais je pense que ça peut toucher. C'est pas forcément, c'est pas parce que quelqu'un a pas vécu les événements qu'on a vécu que ça peut pas le toucher. Je pense qu'on essaie quand même d'être très accessible. Puis il y a évidemment des chansons qui sont beaucoup plus personnelles que d'autres, mais après comme je vous ai dit, on peut parler par métaphore d'un meurtre ou des trucs comme ça, des petites histoires aussi, des petites histoires comme ça, mais je pense qu'on s'adresse à tout le monde, que tout le monde peut vraiment comprendre.
L'idée aussi du projet à la base, c'était de rendre, on l'a dit, le plus accessible la musique expérimentale. Donc c'est le côté que voilà, quand on va écouter aujourd'hui de la musique contemporaine, même si contemporaine c'est pas un mot que j'aime beaucoup, on va plus parler de musique expérimentale, c'est souvent quelque chose d'un peu élitiste, pas forcément accessible, qui est très centré sur des compositions très intellectuelles. Alors voilà, il y a le côté aussi de porte d'entrée, de rendre toute cette musique qui a des côtés absolument incroyables, que moi j'adore en tout cas, accessible à plus de gens. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une autre culture un peu.
Définir expérimental.
Alors définir expérimental, c'est-à-dire que par exemple, je vois Mathis, il a devant lui avec sa guitare, il a un pedalboard, donc plein de pédales d'effet, mais c'est pas juste, une fois il a de la distorsion, une fois il a un clean, c'est qu'il aime bien toucher un peu à tout. Par exemple, la dernière répète, il avait un tournevis sur lequel il tapait les cordes pour faire un peu des effets. Et c'est sûr qu'on aime bien aller emmener les instruments un peu autre part, par exemple la harpe, justement on parle de la harpe, le morceau sur lequel on joue avec. Elle joue pas de la harpe typiquement, c'est-à-dire en faisant toutes les cordes. Au contraire, on a mis dans les micros, on met beaucoup de la distorsion et en fait elle fait vriller toutes les cordes. Et c'est vrai que quand on voit une harpe au début, on se dit ah, ça c'est intéressant. Puis quand on entend qu'elle fait un gros bring, c'est vrai que ça change un peu. Donc expérimental, c'est le côté sortir un peu les instruments de l'ordinaire.
La recherche, la déconstruction,
sortir de la zone de confort en fait.
C'est ça.
J'ai envie de dire de pousser les gens à être plus ouvert d'esprit, à écouter d'autres choses, et parce qu'il y a tellement de la musique, ça s'arrête pas à juste une suite d'accords majeurs qu'on a déjà écouté 120 fois avant. Voilà, c'est aussi beaucoup d'autres choses.
Voilà, alors moi je trouvais effectivement, de mon point de vue, à ce que j'ai écouté, qu'il y avait ces deux axes-là. Un axe de déconstruire certains usages d'instruments convenu, de les transformer, d'expérimenter, donc de découvrir, un peu comme de la spéléologie, on va trouver des recoins et tout. Et puis pour moi, il y avait aussi l'analogie avec, parce que vous avez parlé de surréalisme tout à l'heure, avec le mouvement situationniste qui veut créer des situations, créer des atmosphères, créer des expérimentations nouvelles. Donc il y a et l'axe de dire, on a une recherche intime du rapport qu'on a avec son instrument, et après on a la volonté de déplacer le champ de la musique et puis d'en créer des espaces suspendu ou encaissé ou souterrain clandestin différent quoi. Du coup je voulais en revenir aux paroles, et j'ai appris une question qui vous touchera toutes et tous aussi, pour justement que les personnes se fassent une idée plus précise de ce que vous faites, c'est en termes de littérature, où est-ce que vous allez puiser là aussi vos modèles, vos références? Est-ce qu'il y a des poètes, des écrivains plus que d'autres?
Oui, quand même, ouais. Parce que, alors, moi déjà, après, je laisserai Mathis répondre, mais moi je pioche pas mal. Chez Rimbaud, en tout cas, ça c'est sûr. Chez Rimbaud, on a beaucoup pioché. voilà, on a repris un de ses poèmes, c'est déjà son pioche chez lui, c'est qu'on a repris un de ses poèmes en musique, et c'est vrai qu'il y a... Il y a ce côté chez Rimbaud, bah, sale et expérimental, parce que Rimbaud, clairement, c'est... Pour moi, c'est, on dirait qu'il aurait pu faire partie de Mauvais Sang, enfin, vraiment, genre, c'est tellement sale et innovant pour l'époque. Pour moi, je me disais, il s'inscrit vraiment dans cet esprit-là. D'ailleurs, je pense que c'était pas fait exprès, mais il y a un poème de Rimbaud, il s'appelait Mauvais Sang aussi. Donc, tu vois, je pense que vraiment, il y a quand même cette idée déjà... déjà d'expérimenter et un peu de salir quelque chose, de salir le côté poésie pour Rimbaud et nous de salir la musique. Donc il y avait Rimbaud, pour moi, il y avait Baudelaire, il y avait Verlaine, il y avait tous ces poètes là et il y avait le surréalisme aussi avec Éluard, avec Aragon, voilà, qui des formules mais invraisemblables, mais qui sont très intéressantes et vraiment porteurs de sens.
Ok, j'ai une question un petit peu collective comme ça, mais pour laquelle vous pouvez utiliser votre seul joker de la session. De nouveau, hein, c'est pour vous défricher un petit peu plus loin. J'ai envie de savoir, pour chacun de vous, s'il fallait que vous donniez un nom d'une figure tutélaire pour un poète ou un auteur, un film qui serait celui qui, et une chanson ou un auteur-compositeur qui serait celui qui, lequel citeriez-vous chacun de vous? On va revenir sur ces questions dans quelques instants, comme ça vous avez le temps un petit peu de réfléchir. Et puis d'ici là, eh bien, je pense qu'on va passer un petit peu à l'actualité de Mauvais Sang, c'est-à-dire que depuis, ça fait un an que vous êtes maintenant formé, ouais. Est-ce que vous avez déjà pu pas mal tourner? Est-ce que vous êtes à la recherche de dates? Quel est votre agenda? Enfin, toutes ces questions-là. Alors, dernier concert, comment c'était? Et c'était où et comment c'était?
Alors, le dernier concert... c'était au Conservatoire Populaire, donc à la rue François d'Hivernois.
Ouais.
Donc un concert assez atypique finalement, parce qu'on a joué vraiment dans la salle de concert du Conservatoire, qui a une belle installation. Voilà, on peut amplifier des instruments et tout, mais qui n'est pas forcément faite pour ça. La plupart des concerts là-bas, c'est les auditions de piano, voilà, les concerts de classe et tout ça. Et puis nous, voilà, on est un peu arrivé comme ça avec notre groupe, avec la batterie. On a amené la batterie pour la mettre dans la salle, et puis on a fait ce concert-là, qui était d'ailleurs très intéressant, parce que justement on a amené notre groupe dans une situation vraiment qui faisait partie du conservatoire. Donc c'était chouette, je crois que c'était assez réussi.
Okay. Vous en avez fait un certain nombre de concerts déjà?
Avec Mauvais Sang, on est encore assez jeune en fait. Et alors voilà, mais avec notre ancien groupe donc de rock, on avait pas mal de dates au final quand même.
C'est pour savoir quel type de retour vous aviez eu d'ores et déjà avec Mauvais Sang lors des concerts.
Alors ce qui est bien intéressant au final avec les concerts de Mauvais Sang au final, c'est qu'on est toujours étranger, dans le sens où devant des justement le public qui vient écouter la musique contemporaine. Comme disait Mathieu, il voit arriver cette batterie, il voit arriver ces musiciens avec des guitares qui saturent, avec l'harpe qui sature. Et du coup, on leur fait découvrir d'une certaine manière justement une partie un petit peu rock. Et dans le concert rock, il voit arriver la harpe, il voit arriver ces musiciens dans la musique minimaliste ou qui viennent du conservatoire. Il y a une espèce de décalage, mais au final qui devient très intéressant. Donc... là, on est toujours un petit peu étranger au public à chaque fois, alors ça devient c'est sympa toujours.
Ouais. Et justement, ce qui est bien, c'est que, par exemple, il y a un des derniers concerts qu'on a fait avec Mauvais Sang, c'était à Annemasse pour la fête de la musique. Et la chose, c'est que notre groupe d'avant, Arès, on était déjà venu deux fois, je crois. Et c'était vraiment un groupe assez rock'n'roll, il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé. Et quand ils sont revenus nous voir, on avait quand même du répertoire de Arès, mais on avait également des morceaux assez expérimentaux. Et justement, c'était assez amusant de voir un public de groupe de rock qui venait nous voir pour un groupe de rock et qui, au final, on leur faisait du Mauvais Sang typiquement. Donc, okay. Ça, c'est intéressant aussi de les emmener autre part.
Dans l'actualité, les prochains concerts, quels sont-ils de prévus? Faut-il lancer un appel? Vous êtes à la recherche peut-être de dates?
Oui, je pense qu'on est à la recherche de dates, clairement. On a quand même quelques dates en vue. On a des trucs qui nous tentent pas mal, mais... de vraiment officiel, il me semble, il y a la fête de la musique à Genève, le 21 juin. Mais d'ici là, oui, vraiment, on est en pleine recherche. Puis, clairement, on est en appel aussi. Okay. On appelle les salles et tout.
Bah, très bien. Bah, on fait passer le message, quoi qu'il en soit. Et puis, du coup, il faut donner site internet, adresse de contact, tout ça.
Alors, Je sais pas si je balance mon numéro à la radio.
C'est pas une bonne idée.
Genre, alors,
non, on faut dire qu'on a une page Facebook.
Ouais, ouais. Sur les... Page Facebook, c'est très bien. Ouais.
Voilà, mauvais sang.
Mauvais sang.
Voilà, ouais. Tout simplement.
Une semaine en Facebook, on est mauvais sang, il tombe sur vous.
Voilà, on a aussi une chaîne YouTube où on met, oui, on a mis quelques-unes de nos versions studio et des vidéos live aussi.
Ok.
Voilà.
J'ai encore quelques petites questions, mais on va déjà quand même se tourner autour de nous et puis demander aux personnes qui sont autour de nous si elles souhaitent réagir ou vous poser une petite question. Bon. Rien de cité pour le moment. Alors, on continue. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le poète, l'auteur, le film et la chanson, le groupe qui, comme ça, surgirait et qui serait celui, voilà, qui vous aurait inspiré ou auquel vous vous identifiez d'une certaine manière? Je dis ça parce que moi, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, quand j'ai les trois premières notes que j'ai écoutées, ça m'a fait penser à Diabolo Gomme, et après à plein d'autres choses. Mais c'est marrant comme c'est ça qui a tout d'un coup surgi presque automatiquement, sans que je n'y fasse. Voilà. Alors je me demandais si vous aviez, voilà, comme ça, une sorte d'étoile qui luminescente, comme ça, qui éclaire vos horizons. On y va? On essaye?
Alors.
Mais après, il y a Joker, il n'y a pas de problème. Et puis on peut couper, vous le savez. Hein, on est à la 26e minute 55. Si on viendrait là-dessus, 26-55. Alors. Mathieu, est-ce que tu aurais un poète, peut-être un auteur, un film et une chanson ou un groupe qui, voilà.
Est-ce qu'on peut commencer par quelqu'un d'autre?
Léo,
ça, c'est
bon. Aurais-tu?
Alors,
allez, vas-y.
Bah, un poète, c'est pas très original, mais je veux dire Rimbaud, du coup, comme vous avez parlé. Rimbaud. Mais en musique, mais peut-être. Ce qui nous inspire, je pense aussi, puis je sais pas si on avait mentionné au début, mais Massive Attack, et peut-être qu'on pourrait aussi pas mal se rapprocher. Enfin, bon, il marre bien et tout, genre, il y a des trucs que j'adore. Mm-hmm. Donc ouais, Massive Attack, Rimbaud, puis après je vais pas tout dire parce que je pense qu'on a un peu les mêmes oui, références et tout, je pense que je vais spoiler tout le monde là.
Il y aura quand même un film qui, comme ça, qui toi t'as touché plus qu'un autre et qui compte dans le collectif récent.
Je dirais, j'hésite entre deux, mais je pense que je dirais bien The Shining, peut-être. J'aimerais bien The Shining, ouais. Parce que quand Mathis m'avait montré, moi qui n'avais aucune culture cinématographique, j'en ai pas plus maintenant, mais genre vraiment j'avais découvert Shining.
Qui est un vieux film, ouais, hein, des années 70.
Je pense que clairement, ce côté stressant, strident, je me suis dit, ah ouais, quand même, pour mauvais sang. C'est vrai que c'est sous inspiration, je dirais. D'accord. The Shining.
Ok. Ouais. Voilà.
Alors, moi, c'est plutôt un musicien. C'est mon bassiste préféré. Pour moi, c'est un dieu de la basse. C'est Clifford Liberton. C'était le deuxième bassiste de Metallica, à l'époque où ils étaient encore bons. Voilà. En fait, c'était ce que je trouve extrêmement marrant, c'est quand le guitariste principal a dit comment ils l'ont recruté. C'était, ils étaient allés voir un concert d'un groupe qui s'appelait Trauma. Et à un moment, ils entendent un solo et tous les membres du groupe se disent « Ouais, le guitariste est déchire. » Et en fait, c'était Clifford Burton qui était à la basse. Et donc justement, ils se sont dit « Ah ouais, donc ils sont directement allés le voir. » Ils lui ont dit « Voilà, on veut te recruter. » Bon, il est mort d'une manière extrêmement, extrêmement débile à cause d'un chauffeur bourré, mais c'est pas grave. Mais je pense justement, je trouve ça dommage parce qu'il a quand même laissé un très gros héritage. Et c'est vrai qu'il emmenait la basse haute part à l'époque où la basse était très à l'arrière, les notes graves. Lui, il faisait des solos avec une pédale d'effet. Et je pense que s'il était encore vivant actuellement, il aurait eu une grosse influence dans la musique.
Ok. Tu as un auteur également et un film éventuellement?
Niveau auteur, je ne suis pas tellement dans la littérature. Il y a peut-être... je citerai peut-être Lovecraft, parce que en ce moment, je suis beaucoup en train de lire donc, les recueils sur le mythe de Cthulhu, etc.
Wow.
Mais oui. Mais après, ce que j'aime...
Deep Web.
Exactement. Mais après, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un des auteurs modernes qui a une grosse influence à la même hauteur que Tolkien. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de gens qui pensent que Cthulhu existe réellement. Il y a beaucoup de coïncidences que je trouve marrantes. Par exemple, l'entrée de Cthulhu, c'est apparemment le point le plus profond de l'océan. Et à l'époque, on ne savait pas où il était. Et Lovecraft, il l'a désigné à 30 km un petit peu à côté. Donc, la précision extrême. Et j'aime beaucoup son influence. Même si, bon, il est très dark. Pour lui, clairement, l'humanité, c'est de la... Bip. Mais, mais du coup, voilà. Et après, sinon, au niveau des films... J'ai plein de films préférés, mais c'est juste parce que je les aime beaucoup. Mais après, j'ai pas tellement de j'ai pas tellement d'influence. On va pas parler de celui-là, s'il te plaît, Mathis. Non, on a une anecdote assez débile et marrante, mais sur un film, justement.
Je sais pas si tu veux ou pas. Hein, c'est
oh,
pas
allez, bon, attends qu'on y est. Yeah, c'était, oui. On était à Chamonix. Oui, c'est rigolo. On était à Chamonix, justement, pour se retrouver pour écrire. Et puis, Mathis nous dit, tiens, il faut que je vous montre un film. Alors, étant donné qu'avant, il nous avait montré un biopic sur Kurt Cobain, moi, je lui ai fait confiance. Et puis, il nous a montré le film Grave, ou Grave, on ne sait jamais comment ça se dit.
Grave,
et
grave.
Même si je suis très passionné de films d'horreur, disons que quand c'est très subtil et que c'est très réaliste, ça me met pas très bien. Du coup, j'ai fait un petit malaise pendant que je montais les escaliers. Je me suis explosé la tête contre le mur et j'ai fini aux urgences. Donc, voilà. C'est pas drôle, mais maintenant, quand on se pense, c'était rigolo.
Ça t'a marqué, mais juste...
ça m'a marqué, je suis encore plus con qu'avant. Mais
alors du coup, Mathis, à toi.
Alors.
Fais attention à ce que tu dis.
Oui, voilà.
Subir. Alors, un poète, un film et un groupe ou une chanson.
Alors, un poète, moi j'ai Jim Morrison.
Jim Morrison.
Jim Morrison qui, à côté des Doors, a écrit une liste de poèmes. C'était quelqu'un de très très intelligent, très très cultivé, qui s'intéressait à énormément de choses. Et dans sa poésie, c'est assez extraordinaire. Il nous emmène, il nous fait vivre un voyage. Et c'est très beau ce qu'il écrit, ouais.
Ok, Jim Morrison, pour le poète et ou le musicien, y a-t-il un film ?
Peut-être David Lynch. David Lynch, je suis très très passionné de David Lynch. Alors, il y a des gros classiques, Mulholland Drive. Mais le film qui m'a vraiment marqué, c'est un de ses premiers, peut-être son premier long métrage, qui s'appelle Eraserhead. Et voilà, pareil, qui mélange une histoire, voilà... assez impressionnant, c'est très impressionnant.
Ouais, ça fait très longtemps que je le
vois.
C'est aussi un film, vous allez loin, enfin dans les époques, je veux dire. C'est, là aussi, c'est un film des années. Peut-être 80.
Ah bah, c'est vrai, ouais. C'est
même les années 70.
C'est peut-être les années 70, ouais.
Mais au pire, au mieux, 80, je veux dire.
Ouais,
c'est
ouais.
Quand même assez cher. Ok, très bien, très bien.
Puis la musique. Noir Désir.
Ok.
Noir Désir, voilà. Et dont le guitariste vraiment. Je suis très très fan du guitariste Serge Tessoguet qui, voilà, lui pareil, se balade dans un groupe de musique rock et puis après enchaîne avec des trucs très expérimentaux. C'est super ce qu'il fait.
Ok, merci Mathis. Alors Mathieu, t'as intérêt à cartonner parce que justement on a commencé par toi, on finit par toi, donc du coup c'est pas pour te mettre la pression du tout. Mais voilà, donc un auteur, un musicien ou un groupe ou une chanson et un film.
Alors pour le film, j'en ai deux auxquels je pense là. Un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Into the Wild. Voilà, je me souviens plus du réalisateur maintenant, mais voilà, je l'ai vu à une époque de ma vie aussi où j'étais pas forcément sûr de ce que je voulais faire et comme ça. Et puis, enfin, ça a été vraiment quelque chose qui m'a frappé en tout cas, et une histoire aussi fantastique. J'ai pas lu le livre, malheureusement. Je sais que c'est basé sur un livre et des faits réels, mais le film en tout cas est génial. Et il y a aussi Gattaca. Bienvenue à Gattaca. Parle de beaucoup de thèmes juste magnifiques, je trouve. La réalisation est magnifique.
Bon, dans le commun de tout ce que vous dites, il y a quand même cette notion un petit peu de dystopie, j'ai l'impression, d'utopie à l'envers, de contre-utopie, d'apocalypse d'une certaine manière, parce que Gattaca, là aussi, on touche à des thèmes de contrôle social, et puis de monde totalitaire quand même assez dur, quoi. Les Matrix, ça vous parle aussi? Ça vous a parlé, cet univers-là?
J'allais parler de l'auteur, on peut tout à fait citer... George Orwell, avec 1984, que ça c'est vraiment une de mes bases, en tout cas, que moi je suis absolument fan de ça. Mais
très bien.
Voilà.
Ok, alors, merci déjà pour tout ça. On va arriver au terme de cet entretien. J'ai encore deux ou trois petites questions, et puis ensuite on verra si les personnes autour de nous veulent vous poser une question. Alors, on a bien compris, vous êtes un jeune groupe à la recherche de dates. Est-ce qu'il y a comme ça des lieux dans lesquels vous rêveriez de jouer? Ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie, ce serait des groupes avec lesquels vous aspirerez à partager la scène. Ça peut être vraiment des groupes très connus auxquels on dit, voilà, bien sûr qu'on ne le fera pas, pourquoi pas même des groupes qui n'existent plus, mais voilà, c'est de nouveau pour poser les jalons et puis vous faire parler un petit peu de vous. Alors, première partie, c'est les lieux. Est-ce qu'il y a des lieux particulièrement, des lieux singuliers? Je ne sais pas, ça peut être une cave, un toit, ça peut être une gare, je ne sais pas, un désert. Et ensuite, la deuxième partie de la question, ce sera avec qui vous auriez voulu dans un imaginaire... dans une utopiste comme ça, avec qui vous auriez voulu partager la scène. On commence à l'envers cette fois, avec
Mathieu.
Tu veux nouveau finir.
Non, mais je peux...
Allez, on y va. On peut y aller. Alors, un lieu singulier auquel tu penserais pour jouer?
Un lieu singulier, bon, c'est complètement utopiste, mais voilà, moi je vais au Paléo depuis un moment maintenant, et puis c'est vraiment un peu une religion pour moi.
Donc voilà, et puis
je dis toujours, voilà, pour rigoler, que c'est un peu mon rêve de jouer là-bas, même si je sais que c'est pas forcément dans ce qu'on fait, en tout cas dans la musique expérimentale. Paléo est pas connu pour sa programmation de rock expérimental, mais voilà, enfin, j'y pensais comme ça.
Et... Ok, et puis il y aura un groupe avec lequel tu aimerais.
Là aussi complètement utopiste, mais avec Matisse, on est des grands, bah, avec les autres aussi, je pense, on est des grands fans de Radiohead. Et on a vu en concert Johnny Greenwood, le guitariste, qui est passé au Victoria Hall pour le festival Antigel, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Et c'était absolument phénoménal comme concert, et il jouait justement avec, parce qu'il joue en collaboration avec le London Contemporary Orchestra. Et donc voilà, il faisait des choses géniales, et puis pourquoi pas, ça pourrait convenir à mauvais sang.
Bah ouais. Mathis, à ton tour.
Alors, je rejoins du coup Mathieu sur le Paléo, pareil, ouais. Je m'y rends fréquemment, et ce serait super beau de pouvoir passer de l'autre côté un jour. Et au niveau des groupes, y a aussi un jeune groupe justement qui composait de la musique expérimentale et qui maintenant fait du rock, on les adore, ça s'appelle The Suns. Alors c'est des Québécois, ils sont pas encore très connus, mais bon, ils ont un très bel avenir aussi, et ce serait super un jour de pouvoir faire leur première partie.
Okay. Vrai, ouais. Je te remercie. Balle à toi.
Alors moi, Paléo, je serais assez d'accord, même si pour moi la scène de mes rêves, ça serait de Hellfest.
Ah, ouais.
Honnêtement. Après, niveau, j'ai pas de salle en particulier, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est les salles en intérieur, qui sont quand même assez espacées. Bon, quand c'est petit, c'est sympa, ça fait petit concert privé, mais... quand je regarde des concerts et que je vois qu'ils sont dans des salles en intérieur, avec justement on peut jouer vraiment avec l'éclairage, parce que en plein air de jour, ce qui est dommage, c'est que si on veut mettre des petites mises en scène avec des passages noirs ou des passages faux plus qu'on nous voit, on peut pas, à moins d'avoir des draps, de faire oups. Et après au niveau des groupes, alors Radiohead, je suis parfaitement d'accord. Après sinon, bon, moi ça tient plus du fantasme, parce que ce serait pas logique, mais moi ça serait mes deux groupes de métal préférés, donc Rise of Saturns et Whitechapel. Mais après, est-ce que ça ferait pas un peu, enfin, quoi que la communauté métal est très très accueillante, donc je pense que ça irait bien. Mais c'est vrai que Radiohead, ça serait vachement cohérent et super cool quand même.
Ok, merci beaucoup. Allez, pour terminer, Léo, à ton tour.
Alors moi en fait en salle, lieu, c'est plutôt des lieux insolites, moi, que j'aime bien. Vous parliez de toi tout à l'heure, moi j'aimerais bien jouer dans une forêt, enfin, vraiment, vraiment une forêt spéciale, ou même une jungle et tout, enfin, vraiment un insolite comme ça, enfin, pour voir l'effet que ça fait. Alors il y avait IBI, enfin, et c'est ce groupe avec qui aussi moi j'aimerais trop collaborer, c'est genre IBI, c'était deux artistes cubaines qui justement faisaient des concerts dans les forêts et tout, enfin, voilà, des concepts comme ça. Et je me dis, wow, j'aimerais trop faire ça aussi, genre chanter dans une forêt ou je sais pas, genre, même dans une église, ou vraiment, même si bon, la question se pose, ça serait un peu chaud, mais vraiment, c'est un lieu insolite où l'expérimental, on se dirait, mais non, ça n'a pas sa place, bah si, on casse ce code-là. Et après, il y avait IBI, j'aimerais bien, parce que la musique cubaine électro, je me dis, ça ferait un mix sympa avec, je sais pas, avec leurs voix qui sont hyper mélodiques, puis moi je mets pas trop de mélodie dans ma voix, ça ferait un contraste sympa. Voilà.
Ok, très bien. Bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Peut-être encore on va rappeler le site, enfin la page Facebook.
Mauvais sang.
Sur Facebook.
Instagram.
Et aussi, sur YouTube également.
Et la chaîne YouTube. Le prochain événement, ce sera la fête de la musique.
Ouais.
Le 21 juin ici, ouais, à Genève. Le lieu, on ne sait pas encore, mais le programme paraîtra. Et puis
ouais, on tiendra au courant, les gens.
Voilà, exactement, via Facebook. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochains temps? Donc, il y a l'appel qu'on lance désormais pour toutes les personnes qui souhaiteraient vous faire jouer.
Mm-hmm.
Donc, région genevoise et un petit peu plus loin également.
Mm-hmm. Oui, ouais,
éventuellement.
Ouais, ouais.
Mm-hmm. On va dire Suisse romande, ou canton de Genève-Evo, ou les France voisines.
Oui,
d'accord. Mm-hmm. Et puis, quoi d'autre? Que faut-il vous souhaiter pour le reste?
De la collaboration.
Ouais.
De la collaboration, avec on est open, justement rencontrer des réalisateurs, rencontrer d'autres musiciens, voilà, de travailler avec, même si mauvais sens, c'est une très très belle amitié au final, mais on est toujours apte à accueillir des gens nouveaux,
oui,
et puis c'est ce qui nous intéresse au final aussi.
Ok, très bien. Ben, voilà, l'appel est lancé. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne route pour la suite et à bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.